Bien chers frères et bien chères sœurs, bon après-midi. Lorsque nous nous sommes quittés cet avant-midi, à la fin de la première cassette, j'avais commencé, à l'occasion du troisième syndrome de la mère debout, à vous partager mon expérience personnelle dans ce domaine. Et j'avais eu tout juste le temps de vous dire que depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été réagit activement pour venir défendre mes frères et sœurs qui étaient menacés d'être enlisés dans ces mers de boue. Et j'échappais la statistique d'au moins 350 à 400 de mes frères et sœurs qu'au cours de ma vie, j'ai essayé, dans toute la mesure du possible, et avec la grâce du Seigneur, de sauver de ce fléau. Et j'évoquais en particulier que ce qui avait été pour moi l'initiation ou le baptême dans ce domaine, c'était une expérience que j'avais vécue alors que j'étais aux études primaires dans un couvent tenu par des religieuses. Et j'avais tout à coup découvert qu'on était en train de vouloir diffamer un de mes confrères de classe dans le but de l'obliger à quitter, de pouvoir même le remercier et, du même coup, d'éliminer le prestige qu'on trouvait un peu encombrant de ses parents. Et j'avais été fort attristé par ce geste. Et j'étais allé confier à mes parents mon chagrin, ma sourde révolte devant ce procédé injuste. Et je suppliais mes parents d'aller interpeller, réprimander même les autorités qui agissaient ainsi. Et mes parents, et comme je leur en suis très reconnaissant aujourd'hui, m'ont tout simplement renvoyé la balle et m'ont dit d'aller moi-même, directement, seul à seul, dire aux religieuses en question et même en autorité mon désaveu de petit bonhomme de 9 ans. Ce fut donc, à la vérité, le point de départ de cette lutte corps et âme que je mène depuis lors aux ignobles mères debout, si fréquentes, hélas, en Église. Parmi ceux et celles que j'ai eu la joie de rescaper aux mains de leurs ardents diffamateurs en Église, et non sans en avoir subi moi-même les coups et les contre-coups parfois, je compte au moins une trentaine d'archevêques et d'évêques, dont 3 cardinaux, de très nombreux laïcs éclaboussés par des hommes et des femmes dits d'Église, et quelques centaines de prêtres, de religieuses et de religieux qui ont été salis à souhait par leurs consoeurs, leurs confrères ou leurs propres autorités ecclésiastiques ou religieuses. Le récit de tous ces sauvetages est encore bien vivant dans mon cœur et mon esprit. Je n'en regrette aucun. Il me faudrait cependant des jours pour vous les évoquer tous. À la vérité, dès que je me rendais compte qu'une telle violation flagrante de l'Évangile du Christ était en cours, je n'ai jamais retardé à réagir et agir. Dieu soit loué et remercié, car aucun obstacle ni aucune autorité jusqu'à ce jour n'ont réussi à m'en empêcher. Je peux donc avouer aujourd'hui qu'à travers toutes ces expériences des plus variées à la fois, j'ai vite acquis une certaine expertise face aux mères debout et aux meilleurs moyens à prendre pour les réprimer, les endiguer et les assécher, du moins quand elles assaillent les autres. À l'expérience hautement confirmée à travers ces 350 à 400 cas de mères debout, finalement maîtrisés, je suis en mesure d'affirmer sans hésitation ni équivoque 2 thèses importantes. La première concerne le règlement des mères debout. il n'y a pas 36 manières possibles de régler efficacement ces mers de boue, mais seulement deux moyens. D'une part, le pardon chrétien total et inconditionnel de la part de leurs victimes. D'autre part, la réparation sincère en justice chrétienne à un degré proportionnel au tort causé de la part du ou des responsables de la mer de boue. Toute autre solution de compromis, même à l'amiable, s'avère tôt ou tard bornée ou mornée, c'est-à-dire insuffisante ou à reprendre. La deuxième thèse, qui vient également de mon vécu en ce domaine, concerne le sort dévolu à quiconque, dans une mer de boue, refuse délibérément soit de pardonner en tant que victime, soit de réparer en tant que responsable. La prophétie de Jésus qui dit que ceux qui prennent l'épée périront par l'épée s'avère vraie dans ces cas-ci également. À ne pas vouloir sortir chrétiennement de leur bourbe ou bourde, ils finissent tôt ou tard par s'y enliser eux et elles-mêmes. Et si vous me permettez de pousser encore plus loin ma confidence fraternelle avec vous, je vous avouerai, mes chers amis, qu'à l'heure où je suis moi-même victime d'une mer de boue, mon pardon envers ceux et celles qui ont les premiers délayé, détrempé la boue à mon sujet, un couple laïc, une religieuse, un bon père et deux évêques, que mon pardon envers eux, accordé dès les toutes premières heures de cette mer de boue, est à ce point total, inconditionnel, irrévocable, donné dans la paix, la joie et l'amour, réoffert depuis matin et soir, que j'apprendrai soudainement, cet après-midi même, que l'un d'eux est en train, ou même seulement menacé, de connaître le même sort, celui d'une mer de boue, que je plongerai immédiatement, activement, à son ou à leur secours et défense. Il et elle, responsables de la mer de boue à mon endroit, demeurent mes frères et sœurs en Église, et ne cessent de l'être, quoi qu'ils aient dit, quoi qu'ils aient fait, de plus ou moins agréable à mon sujet. Et croyez-moi, j'accourrai les sortir de cette épreuve, qu'ils aient ou non déjà réparé le tort qu'ils m'ont causé. Mes amis, le véritable, aimons-nous les uns les autres. Et nous aurons l'occasion d'y revenir amplement, à satiété même, dans la deuxième série annoncée et dont l'enregistrement se fera d'ici quelques semaines, le « aimons-nous les uns les autres » de Jésus ne compte pas les tours ni les jours. Et grâce à sa saveur avec un grand S, sa saveur surnaturelle, le « aimons-nous les uns les autres » de Jésus passe très vite l'éponge, pardonne et oublie, sans peine, et va à l'essentiel, qui est de porter et de partager l'amour de Dieu là où il manque, peu importe à qui la faute. Mes chers amis, il y a beaucoup, beaucoup trop d'éboueurs en Église. Les boueurs ou les éboueurs, d'après le dictionnaire, ce sont des gens qui, par métier ou par vocation, sont chargés de transporter les boues qu'ils enlèvent d'un endroit à un autre endroit. Sur le plan de la charité fraternelle et communautaire, il y en a en Église. avouons-le encore une fois à notre courte honte, et d'un aveu sincère, car il est indispensable et préalable à la grâce, de conversion profonde qui s'impose en bien des milieux et non des moindres. Il y a en Église des légions de boueurs, de transporteurs de boue d'une personne à l'autre. C'est grave, car la boue, quelle qu'elle soit, est toujours sale et salie. Veux pas, tout est boueur. Dans un manquement à la charité, même dont on n'est pas l'initiateur ou le promoteur, la boue qui entre par les oreilles salit, infecte toujours, qu'on le sache ou non, l'esprit et le cœur, avant de ressortir par la bouche pour continuer sa route dans les oreilles, le cœur et l'esprit des autres. Et il n'existe aucun vaccin, aucune immunité contre l'accueil de la vase, de la boue qui diffame le prochain. Pourquoi? Parce que la boue accueillie et retransmise, même si on n'y croit pas, même si on décide de ne pas la répéter, a déjà fait son œuvre maléfique en soi dès qu'on l'accueille. La boue morale, n'étant pas du Seigneur, c'est évident, ne jouit d'aucune onction de grâce divine. Judoka le fourbe la délaie, cette boue, précisément avec la triple intention d'empoisonner trois groupes à la fois. Les délateurs et diffamateurs eux-mêmes, les retransmetteurs et boueurs, et les destinataires. Bien entendu, on l'imagine bien, Judoka n'offre aucun contrepoison, aucune protection à ces trois groupes, puisque c'est précisément son plan de les ruiner tous les trois, par le non-amour, la non-vérité et la non-liberté. Et par voie de conséquence, chacun y perd sa paix et sa joie. Chacun, et on le verrait si on pouvait le mesurer, devient même emprisonné, pris en otage par le fait qu'il initie la mère debout, ou qu'il la retransmet, ou qu'il se laisse éclabousser par cette même mère. Bref, il est très important. Non seulement il ne faut pas être à l'origine de la boue, on sait que ce qui sort de la bouche révèle ce qu'il y a au cœur, mais tout autant, il est gravement dangereux d'écouter ou d'accueillir, même un seul instant, ce qui est de la boue, fondé ou non fondé, ou de s'en laisser arroser ne serait-ce qu'un instant. Dans les deux cas, il faut immédiatement stopper les boueurs à l'œuvre, quelles que soient ses bonnes intentions, ses réserves, ses précautions oratoires, ou quel que soit son titre ou sa fonction en Église. C'est à cause de ces manques de précautions d'asepsie, pourtant élémentaires et évangéliques, que ce poison, cette pollution, est entré dans nos circuits ecclésiaux, religieux et familiaux, considérés comme inoffensifs et habituels, etc. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce syndrome de la mère debout. Que faut-il en penser? C'est évident. D'ailleurs, déjà, on retrouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 22 et 23, des exhortations sur ce point. Prenons 23.1. Tu ne rapporteras pas de rumeurs sans fondement. Ne prends pas de parti d'un coupable, le parti d'un coupable, par un faux témoignage. Verset 2. Tu ne suivras pas une majorité qui veut le mal et tu n'interviendras pas dans un procès en t'inclinant devant une majorité partiale. Verset 7. tu te tiendras éloigné d'une cause mensongère. Donc, dès les origines les plus lointaines, avant même la venue de Jésus, les lois formant le code de l'Alliance nous montrent le souci de Dieu de faire de son peuple un peuple fraternel, vivant une charité véritable. Et on trouve ce dernier texte que je cite du livre du Siracide, l'Ecclésiastique, chapitre 19, versets 13 à 17. Interroge ton ami. Peut-être n'a-t-il rien fait? Et s'il l'a fait, qu'il ne recommence plus. Interroge ton prochain. Peut-être n'a-t-il pas dit cela? Et s'il l'a dit, qu'il ne le répète pas. Interroge ton ami, car la calomnie est fréquente. Ne te fie pas à tout ce qu'on dit. Tel glisse sans mauvaise intention. Qui donc n'a jamais péché en parole? Interroge ton prochain avant de le menacer. Et laisse la loi du Très-Haut suivre son cours. Passons maintenant, si vous voulez bien, au quatrième et dernier syndrome de cette deuxième partie, le syndrome de la zizanie. Le mot zizanie, dans le dictionnaire, veut dire « mauvaise herbe, ivraie ». Et le syndrome de la zizanie, c'est la maladie chronique de quelqu'un ou quelqu'une qui désintègre continuellement l'unité partout où il ou elle passe, soit par ses paroles, ses questions, ses réflexions ou encore ses insinuations, ses allusions et ses comportements, qu'ils soient calculés, contrôlés ou improvisés, peu importe. Sur son passage, la concorde, la paix, la joie, l'amour, la spontanéité, la confiance se désagrègent, se dérèglent, se désamorcent dans le milieu où cette personne passe. Et l'on voit peu à peu surgir dans ce même milieu le doute, la tension, la méfiance, la discorde, etc. Les zizaneurs ou zizaneuses, et j'invente le mot, il n'est pas au dictionnaire, ce sont des semeurs et des semeuses de zizanie, donc d'ivraie, de trouble, de désunité. On peut, à mon avis, les distinguer en trois sous-groupes. Les zizaneurs de plein gré, les zizaneurs malgré eux, et les zizaneurs bon gré mal gré. Les zizaneurs de plein gré, ce sont ceux et celles qui intentionnellement et consciemment veulent perturber l'unité et toutes ses composantes, amour, joie et paix. Ils agissent en leur nom ou en celui de d'autres personnes. Leurs motifs sont mauvais, erronés, faux et peuvent varier à l'infini. Donnons-en des exemples. L'unité, c'est toujours une menace pour eux. Ils ne sont pas confortables là où il y a de l'unité. Ou bien ils n'aiment pas les leaders du milieu. Ou ils désirent s'emparer de ce qu'ils croient être un pouvoir. Ils prétendent libérer le milieu et les gens, car pour eux, l'harmonie, la paix et l'unité, quand elles existent, ça a toujours été quelqu'un qui l'impose de force. Ils ne peuvent pas croire que ça existe librement. Ça peut être la jalousie et l'envie qui jouent souvent, ou le goût de changer pour changer. L'entente facile, déjà acquise, leur fait peur. Ils préfèrent fonctionner dans un climat agité de confrontation, d'affrontement. Ils sont, ou elles sont, ce qu'on appelle des brandons de discorde, c'est-à-dire des personnes ou des choses qui sont source de discorde et de trouble. Et ils trouvent aisément ce qu'on appelle des pommes de discorde, c'est-à-dire des sujets de division et de controverse. Les zizaneurs, malgré eux, sont ceux et celles qui, sans avoir désiré ou prémédité le moindrement la désunité, les tensions ou l'agressivité, se font jouer un vilain tour par leurs profondes blessures personnelles non guéries. Blessures d'ordre psychologique, moral, social ou même spirituel, qui soudainement remontent à la surface en prenant connaissance, tout à coup, de l'unité, de la paix, de l'amour, de la joie qu'il y a dans un milieu, et donc de la détente, de la sérénité, de la simplicité, de la bienveillance qui règne en ce milieu donné. C'est un tableau qui, parce qu'il est paisible et harmonieux, leur fait mal. Ça a le don de les provoquer et de les faire mal réagir. Soit parce que ils n'ont jamais connu cela dans leur vie, puis ils ne savent pas comment composer quand il y a de la paix, de l'amour, de la liberté, ils sont désemparés, ils n'ont jamais expérimenté ça. Soit à l'inverse, parce que cela évoque une mauvaise image de leur passé. Ils ont connu la paix, l'unité dans leur milieu quand ils étaient jeunes, mais cela avait été imposé de force par des parents autoritaires. Ils ont connu donc une vie d'apparente unité, d'apparente harmonie, d'apparente paix, imposée à coups d'ordre, de discipline, de menaces, sans amour et sans liberté vraie. Et alors, ils réagissent mal et deviennent un peu, malgré eux, des brandons de discorde et de tension. La troisième catégorie, ce sont les isaneurs que j'appelle bon gré mal gré, malgré tout et malgré tous. Alors que dans les deux premiers cas que nous venons de voir, les semeurs de zizanie habituellement se rendent compte de leurs méfaits, les deux premiers groupes, à quelques exceptions près, dans le troisième cas que nous allons maintenant considérer, ces personnes ignorent tout à fait que leurs comportements sont ou peuvent être cause d'irritation, de tension et, en dernière analyse, de désunité. Ils sont à 100 lieues de l'imaginer même. Les zizaneurs et zizaneuses bon gré mal gré, donc ceux et celles du troisième groupe dont nous parlons, sont des personnes, hommes ou femmes, qui ont des traits de caractère qu'ils n'ont pas choisis, comme tout le monde, qui produisent au sein des familles, des groupes, des communautés, des réunions de famille, des rencontres sacerdotales ou de mouvements, un effet désagrégeant et désagréable. Leur présence suscite tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, un courant centrifuge parmi les autres participants. C'est à qui d'abord les ignorerait, ou les fuirait le mieux ou le plus. Chacun préfère laisser aux autres le soin de converser avec eux et avec elles, et de leur tenir compagnie. On les fuit comme on fuit des porcs-épics, ou comme on fuit la peste. Le danger, si on n'y voit pas, c'est que bien des gens commencent à trouver toutes sortes de bonnes raisons pour s'absenter, pour recommander de suspendre ou d'espacer les réunions de groupes, de familles, en invoquant toutes sortes d'autres raisons, sauf la vraie, c'est-à-dire la présence et le comportement de ces zizaneurs et zizaneuses. Et alors, la zizanie se répand peu à peu dans la famille, la communauté, le diocèse ou le mouvement. Rapidement, je vais donner des exemples de ces traits de caractère qui désagrègent lentement mais sûrement l'unité sociale et chrétienne d'un groupe, à l'insu même de ceux qui souvent les propagent. Premier comportement fautif, un esprit dénigreur chronique. Ils sont toujours à rouspéter, à dénigrer. Le genre discoureur ou discoureuse, qui aiment parler longuement et s'entendre parler. Ça tombe rapidement sur les nerfs des autres. Le genre vantard et vantarde, le suffisant et la suffisante qui sait tout, a tout, peut tout. Le genre raisonneur et raisonneuse, qui discute tout, argumente sans fin, réplique, analyse, aime s'opposer, s'objecter. Le type centralisateur ou centralisatrice qui ne s'intéresse au partage que s'il est ou que si elle est bel et bien au centre de la conversation. Quand ce n'est pas le cas, elle coupe cette personne, les conversations, et change le sujet ou fait l'amour. Bien entendu, sont irritants et irritants tous ceux et celles qui se laissent emporter par la colère, la jalousie, la boisson alcoolique et la drogue, etc. Ou encore, sont occasion de zizanie, ce que j'appelle ces pique-bois, qui trouvent le moyen d'agacer par leur manie, qui consiste soit à toujours reprendre les gens à tout bout de champ pour un mauvais choix de mots ou d'expression, soit de confondre les autres en leur soulignant qu'ils ont changé d'idée ou de prise de position, soit en les corrigeant sur les moindres détails inexacts quand ils font des récits, alors que tous les autres ont eu l'intelligence et la charité de saisir malgré cette erreur. C'est le cas également des gaffeurs et des gaffeuses incorrigibles, en une certaine manière. Ces gens donc qui ont le don, et plus souvent qu'à leur tour, d'échapper des paroles maladroites, de poser des gestes intempestifs, de se mettre les pieds dans les plats, de faire des réflexions irréfléchies, de poser des questions impertinentes, de faire des commentaires qui mettent tout le monde mal à l'aise et leurs victimes plus qu'inconfortables. Donc, il suffit d'un seul ou d'une seule originale et excentrique de ce genre pour gâcher l'amour, la joie et la paix de toute une assemblée. Bref, en souriant, disons que le zizaneur et la zizaneuse, c'est en définitive celui ou celle qui a, semble-t-il, appris la célèbre prière de saint François d'Assise, mais à l'envers, en la lisant et en la vivant de droite à gauche. Là où il y a l'amour, il vient semer la haine. Là où il y a l'union, il vient semer la discorde. Là où il y a la foi, il vient mettre le doute. Là où il y a la joie, la tristesse. Là où il y a la vérité, l'erreur, etc. C'est donc la prière de saint François d'Assise, mais à rebours. Le fait est qu'après leur passage, le zizaneur ou la zizaneuse laisse toujours ses mauvaises traces. Un zizaneur ou une zizaneuse, c'est également un spécialiste, plus ou moins conscient, des tempêtes dans un verre d'eau. Ils savent faire une montagne d'un grain de sable, d'un incident mineur, d'un détail, d'une divergence de vue. Ils savent déclencher toute une révolte, un débat académique majeur. Autre caractéristique, ils ne lâchent pas. Et plus on attire son attention aux zizaneurs et à la zizaneuse sur son comportement, plus il et elle s'activent et zizanent. Eh bien, quoi faire? Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, 14, 15, on reçoit l'interpellation suivante. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne vienne à se soustraire à la grâce de Dieu. Qu'aucune racine amère ne se mette à pousser, à causer du trouble et à infecter ainsi la communauté. Quoi faire alors? Deux excès à éviter. Premier excès, tolérer simplement, sous prétexte de charité, cette zizanie. L'autre excès, exclure carrément ces gens sans les avertir. Le Seigneur, on le sait, nous invite toujours à bien distinguer la faute et la personne en faute, à dénoncer la faute et en même temps à aimer quand même la personne en faute. Il appartient donc à la ou le ou les responsables du milieu, de la famille, de la communauté, du diocèse, de la paroisse. Ils n'ont pas le choix, il leur incombe d'agir. D'agir selon l'esprit du commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, et au nom du combat spirituel chrétien qui nous incite partout et toujours à protéger le climat de charité, de vérité et de liberté. Pour prendre une comparaison rapidement, si chez vous, vous ne voulez pas tolérer la drogue, les abus d'alcoolisme, les histoires à double sens ou de mauvais goût, vous devez le déclarer, puis l'exiger, en toute charité, vérité et liberté. C'est la même chose avec la zizanie, source certaine d'éventuelles désunités. Il faut aller au-devant de ce mal, et de ceux et de celles qui sèment consciemment ou non, volontairement ou pas, peu importe, les mauvaises herbes, livraient de la tension et de la discorde dans un milieu donné. Il faut dire qu'on n'en veut plus et aider les zizaneurs et les zizaneuses à prendre conscience de leurs défauts. C'est leur rendre service, c'est se rendre service, c'est rendre service à tout le monde. Et voilà, mes chers amis, ainsi se termine cette deuxième partie où nous avons vu ensemble quatre syndromes qui nous concernent tous en tant que fidèles dans l'Église. Le syndrome de la diffamation, celui de la délation, de la mer debout et le syndrome de la zizanie. Passons, si vous voulez bien, et regardez votre schéma, à la troisième partie. Nous allons cette fois nous arrêter à quatre comportements fautifs et assez courants de la part, cette fois, de personnes en autorité, à savoir les parents, les évêques, les éducateurs, les supérieurs, les dirigeants d'œuvres ou de mouvements. Ces comportements sont plus ou moins conscients chez beaucoup, ils sont même tout à fait inconscients chez certains. Nous voulons en parler car ils détruisent, eux aussi, au plus haut point, la charité fraternelle et communautaire dans les familles, dans les groupes, dans les diocèses, dans les communautés. Ces comportements deviennent eux-mêmes source de constants manquements à la charité de la part tant de ceux et celles qui en sont les victimes que de ceux et de celles qui en sont les témoins ou même les complices obligatoires par délégation ou soumission. Je vais d'abord faire une précision préliminaire sur l'exercice de l'autorité. La cause première des difficultés, le péché originel qui fausse, biaise, complique ou compromet habituellement l'exercice de l'autorité chez les parents, les éducateurs, les évêques, les supérieurs, à tous les niveaux et dans tous les secteurs de notre société et de l'Église, c'est habituellement l'autoritarisme qui, lui, vient immanquablement du fait qu'en général, l'autorité de nos jours, au lieu de s'exercer dans un véritable esprit de service tel que le Christ l'a prôné, s'exerce, veut pas, malgré le désir ou le goût de ceux et de celles qui sont en autorité, s'exerce pratiquement toujours dans un esprit de pouvoir. Et beaucoup, pour ne pas dire la grande majorité des gens qui sont en autorité dans leur famille, dans les institutions d'enseignement ou les organismes de notre société ou de l'Église, beaucoup ne sont pas bien préparés à exercer le pouvoir. Ils n'ont pas été entraînés à cela. Ils se sentent insécures, menacés a priori, et sont contraints de s'affirmer continuellement pour ne pas perdre le contrôle. Et c'est ainsi que, bien malgré eux et à regret, ils glissent dans l'autoritarisme avec tous ses mécanismes, ses pièges et ses victimes. Même si en désir, ils pensent comme le Christ, l'exercice de leurs fonctions les harcèle de tous côtés, les pressions sont tellement grandes souvent, et les attentes des autres si nombreuses, qu'il leur faut décider, mandater, contrôler, exiger, évaluer, donner l'exemple, etc. Et c'est vraiment trop, tant pour la caboche que pour l'esprit et le cœur d'un grand nombre. Arrêtons-nous donc à considérer quatre de ces comportements fautifs, hélas courants, fruit souvent de cet imbroglio entre l'esprit de service en principe et l'esprit de pouvoir en pratique. Donc, quatre syndromes qui menacent toute personne qui a ou qui exerce l'autorité, et je le redis encore une fois, les évêques, les prêtres, les parents, les supérieurs de communauté, les éducateurs, les dirigeants laïcs, etc. Et nous allons voir quatre syndromes. D'abord le syndrome de la domination, ensuite le syndrome du Sanhédrin, troisièmement le syndrome de l'Inquisition, et finalement le syndrome du sablage continu. Passons au premier syndrome, le syndrome de la domination. Il sera peut-être bon en ce moment-ci de rappeler en passant l'enseignement même de Jésus quand il s'adressait, et on retrouve le texte à Marc 10, 42 à 45. C'est l'incident où Jacques et Jean avaient demandé de siéger à la droite et à la gauche du Seigneur, et les apôtres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit: vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et le même enseignement est repris en d'autres termes par le chef même des apôtres, Pierre, et on retrouve son exhortation dans la première épître au chapitre 5, versets 1 à 4. Il dit ceci: j'exhorte donc les anciens, c'est-à-dire les chefs de la communauté, qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances du Christ. On sait qu'il avait été témoin dans les deux sens, il avait vu le Christ souffrir, et il souffre lui-même en proclamant le Christ. Il dit ceci: paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous sont échus en partage, mais devenez les modèles du troupeau. Et quand paraîtra le souverain berger, le Christ, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Fin de la citation. Et quand on parle de modèle du troupeau, on peut rejoindre l'exclamation de saint Paul à la première aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. » Ce syndrome de la domination aurait pu tout aussi bien s'appeler le syndrome de la prise en otage. Nous vivons, je le souligne souvent, dans un monde où les relations humaines sont gérées par et imprégnées de cet esprit dominant-dominé. On domine ou on est dominé. C'est ainsi, hélas, que fonctionne le monde de la vie économique, de la vie politique, des relations patronales ouvrières, des milieux du travail, bien des milieux de vie conjugale, familiale, sociale et autres. Or, l'Église, qui peu à peu a mis de côté le livre de l'imitation de Jésus-Christ pour celui de l'imitation du monde, s'est laissé inspirer, lentement mais sûrement, par cet esprit dominant-dominé. Les personnes qui, souvent du jour au lendemain, se retrouvent en autorité en Église, souvent sans préparation ou formation adéquate, avouons-le, parfois même sans appel intérieur fondé, et sans vrai désir, et parfois même contre leur gré, car on force quelquefois l'adhésion à coups de motivation soi-disant spirituelle pour obliger quelqu'un à assumer un poste d'autorité. Il faut obéir, c'est la volonté de Dieu, la grâce d'État va te suffire. Quand ce n'est pas le bon vieux principe de Peters qui joue, à savoir qu'ils ou qu'elles sont promus pour l'unique raison d'avoir bien réussi jusqu'ici ailleurs et autrement, sans que soit vérifiée à fond leur aptitude réelle à assumer le nouveau poste ou la nouvelle fonction, bien de ces personnes nommées en autorité dans l'Église, on l'imagine bien, éprouvent très tôt et très fort une grande insécurité. Et comme, selon les us et coutumes de nos milieux et de notre temps, il est fort déconseillé de laisser même paraître le moindrement cette insécurité, beaucoup compensent en passant à l'extrême opposé, en adoptant des airs et en posant des gestes de nature à vouloir, du moins dans leur esprit, affirmer résolument qu'ils sont en contrôle et qu'ils ont autorité. Ils veulent et laisser paraître dès le point de départ, qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes, qu'ils sont forts, aptes à commander souverainement et à exercer une influence qui l'emporte sur celle des autres. Et c'est alors, mes chers amis, que commence la glissade. C'est le début de la tragique aventure de ce que j'appelle l'insuffisance qui se camoufle et se travestit en suffisance. Et alors, c'est l'infernale surenchère en spirale d'une foule de paroles, de gestes, de méthodes, de décrets, d'interventions, de contrôles, voire même de virevoltes ou de contradictions qui se multiplient, qui se succèdent pour tenter toujours d'établir et de maintenir de plus en plus sa domination et son autorité. Et on me fait signe que le temps est pratiquement écoulé. Nous allons nous reposer et nous retrouver dans quelques instants.